je reviendrai à Montréal. Dans ce temple bleu, rouge et blanc, je reviendrai à Montréal. Revoir enfin mes partisans. Revoir enfin mes partisans.
On est vraiment dans la nouveauté ce matin. Alors, c'était l'occasion du 50e anniversaire de la chanson emblématique « Je reviendrai à Montréal ». C'est le fils, hein, Jérôme Charlevoix, qui présente une adaptation de l'œuvre créée par son père en 1976. C'était inspiré de sa passion pour le hockey. Alors, c'est belle voix, hein? On reconnaît un petit peu son papa. Qu'est-ce que tu en penses, Daniel?
Ben oui, on reconnaît tout à fait. Puis moi, en écoutant la fin de la chanson, j'entendais le mot espoir. Mm-hmm. Je reviendrai à Montréal, je reviendrai chez moi et pour voir des visages qui s'illuminent. Mais pour certains, c'est pas le cas.
Ouais.
Et je vous amène au Sénégal parce qu'il y a des gens qui ont l'espoir de faire une vie meilleure et qui embarquent sur des radeaux, des zodiacs de fortune, des bateaux de fortune, des chalutiers de fortune et qui s'engagent sur l'Atlantique et qui ne reviennent jamais à la maison. Alors, l'espoir, il n'y en a plus d'espoir. On apprend la mort de ceux qu'on aime. Et je vous parle justement d'enfants qui sont au Sénégal. Et le titre de l'article, c'est « Ceux qui restent ». Et je vous parle de témoignages de ces enfants-là. Donc, c'est un beau, beau témoignage à part ça. Alors, je commence. Je n'y croyais pas. Ma mère et moi étions dans cette pièce quand elle m'a annoncé la terrible nouvelle. Mon père est perdu en mer. Impossible, inimaginable. Je doutais, je refusais d'admettre qu'il était parti pour toujours. Et c'est ce que raconte chagrinée Sédina, qui est l'aînée de sa famille. Son père, par contre, avait pris les pirogues 5 ans auparavant en direction de l'Espagne. À l'époque, c'est un garçon plutôt, Sédina. Mmh. Alors, à l'époque, le jeune garçon n'avait que 10 ans. Aujourd'hui, il se souvient plus que jamais de ce moment qui allait bouleverser son avenir. Alors, je vous amène, vous, les auditeurs, sur le littoral de Tiaroy-sur-Mer, qui est à quelques kilomètres à l'est de Dakar. Et en avant, ben, c'est l'océan Atlantique. Et on entend de cette plage le bruit des vagues qui semble porter le poids des départs. C'est un quartier qui est célèbre de Dakar et qui porte justement les stigmates de la migration irrégulière. Les conversations entre voisins tournent souvent autour des départs. Alors, les rêves d'un meilleur destin, les promesses de travail à l'étranger, les risques des traversées, hein, sur l'Atlantique, en Méditerranée ou sur d'autres mers, et les retours incertains. Des femmes et des hommes discutent des moyens de réunir les fonds pour le voyage, économie, micro-activité locale, aussi le soutien de la famille. Et au milieu de ces voix qui cherchent des réponses, ben, y a les enfants. Souvent, ils sont oubliés et pourtant les plus affectés par les décès dans la migration irrégulière. Pour certains enfants, l'annonce survient comme un coup de tonnerre, puis la confusion s'installe pendant plusieurs mois, parfois toute une vie. Sédina, ce jeune homme, réalise au fil du temps l'ampleur de l'absence de son père et il confie « Malgré mon jeune âge, j'avais une relation cordiale avec lui. Il m'emmenait partout. J'ai pleuré la mort de mon père. Mais je peux dire que je suis plus chanceux que ma petite sœur qui n'a pas eu la chance de le connaître. » Et ici, on voit, on lit que c'est la petite Kadi, qui a 6 ans aujourd'hui, et qui dit « Ben, moi, je connais pas mon père, mais j'ai vu sa photo. C'est ma maman qui me l'a montré et elle m'a dit qu'il est en voyage. » Hein, le regard de Kadi qui a 6 ans porte déjà un monde d'innocence et de questions parce que Fama, sa mère, ne lui a pas expliqué. Elle a le silence, elle s'abstient au silence et elle dit par contre, je suis obligée un jour de lui dire que son père est en voyage parce que lorsque ce dernier prenait les pirogues pour l'Espagne, Kadi n'avait que quelques mois. Elle venait tout juste de naître. Ben, je finirai par lui dire la vérité, hein, de sortir de mon silence, car si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre dans la rue va le faire à ma place. Je vous présente Mustapha maintenant, qui n'ignore pas la vérité. J'ai su qu'il n'était plus en vie le jour où beaucoup de monde est apparu dans notre maison familiale. Certains pleuraient, raconte le jeune garçon de 10 ans. Ce tragique souvenir est plus vif pour Daba, qui lui a 14 ans. Il y a un an, son père entreprenait le voyage périlleux. Daba, c'est une jeune fille. Alors, les mots d'au revoir adressés à elle et à sa mère dans leur chambre, les conseils pour exceller à l'école, la promesse de revenir bientôt après avoir acquis les moyens nécessaires à leurs besoins. Mais elle, Daba, garde tout en mémoire, mais depuis lors, aucune nouvelle de son père, donc, hein, on devine. Avant, c'était lui qui m'aidait dans mes devoirs parce qu'il avait fait les bancs jusqu'au collège. Il me disait que tout serait possible si on travaillait. Mais maintenant, c'est moi, Daba, qui dois prendre les décisions lourdes, rester sérieuse à l'école, aider mes frères et sœurs à ne pas faire de bêtises, qu'elle raconte évidemment avec un visage triste parce que l'espoir, il a complètement disparu. Il est 12 heures et je vous invite à imaginer, il est 12 heures et le soleil sans merci frappe la plage hein, et de Thiaroy-sur-Mer. Et Abdou est assis sur le bord de la plage et à quelques mètres plutôt de l'eau, de l'océan Atlantique. Alors le 12 février 2012, c'est le jour où le père d'Abdou a quitté Thiaroy vers l'Eldorado espagnol. Jusqu'à ce jour, aucune nouvelle de lui et de ses compagnons. J'avais 12 ans à l'époque et nous savons qu'il est décédé en mer, regrette Abdou. Dans ses yeux, une étincelle qui hésite entre la colère et la résilience, entre la mémoire et l'oubli. C'est difficile de vivre son absence, mais je n'ai pas le choix. Mais malgré l'absence, Abdou, qui a aujourd'hui 25 ans, il avance et la mémoire de son père devient une force qui porte ses accomplissements. La même semaine où il a quitté Thiaroy-sur-Mer, j'ai maîtrisé le Saint-Coran. Je voulais qu'il assiste à la cérémonie de ma remise de diplôme parce qu'il me payait les cours. Pour Sédina et Mustapha, l'amour du père s'est transformé en dévotion envers leur mère et en rêve d'avenir radieux malgré tout. Aujourd'hui, s'il était encore vivant, mon plus grand rêve serait de lui construire une maison. Hélas, vu qu'il n'est plus là, qu'il n'est plus de ce bas monde, je le ferai pour ma mère. Nous vivons toujours chez mes grands-parents paternels. Ce sera aussi un hommage à mon défunt papa, aussi parce qu'il est mort en mer, en quête d'une vie meilleure pour subvenir à nos besoins. C'est ce que confie Mustapha. Quant à Sédina, son souhait demeure d'accomplir des gestes qui diraient tout l'amour qu'elle porte à sa mère. Mon rêve, c'est de l'amener à la Mecque, de lui construire une maison, de lui offrir des voyages à travers le monde. Face à la perte, la mère demeure le pilier qui soutient tout, même lorsque le quotidien fatigue et que le poids financier écrase le souffle. Son mari est parti à jamais, la mère de Sédina se bat de toutes ses forces pour subvenir aux besoins de sa famille grâce à son petit commerce d'encens. Je subviens à mes besoins. Parfois, si je ne suis pas financièrement stable, je vais prendre de quoi manger chez la vendeuse de repas qui est à côté jusqu'à ce que je puisse rembourser. Parfois, je ne dîne pas, raconte-t-elle, et ça, les yeux lourds d'épuisement. Abdou n'a pas la chance d'avoir une mère présente comme celle de Sédina et de Mustapha parce que chez lui, ce sont, imaginez, les deux parents qui sont absents.
Wow.
Hein? Et il a la charge de son petit frère qui n'a pas eu la chance de connaître leur père. Je me débrouille seule pour me payer une formation. Parfois, quand la pêche est bonne, on est au bord de la mer, de l'océan, parfois, quand la pêche est bonne, je me reconvertis en pêcheur pour avoir un revenu pour financer mes études et subvenir aux besoins de sa famille, explique ce jeune homme-là qui n'en veut pas pour autant à son père d'avoir quitté pour offrir à sa famille une vie meilleure. D'ailleurs, tout dans le contexte de toute cette ces départs et de ces absences et de ces morts tragiques et de ces disparus, ben il y a depuis 2022 une association sénégalaise de lutte pour la liberté de circulation et la dignité des migrants qui s'appelle Bozafil et qui a instauré une tradition à l'occasion des fêtes de Noël, c'est-à-dire d'offrir un présent à ces enfants dont les parents se sont éteints quelque part dans le désert, parce qu'on peut fuir par le désert, hein, ouais. ou encore dans l'immensité d'un océan Atlantique, Pacifique ou la
dans
mer.
Dans tous les cas, c'est très périlleux.
C'est très, très, très périlleux. Et pour une quatrième édition, en décembre 2025, l'association s'apprête à atteindre le seuil symbolique des 1000 cadeaux distribués. Chaque 25 décembre, au moins 250 enfants reçoivent un présent. Et avant la fête, il y a l'enquête. Cette étape est délicate. Elle est menée par les soins des points focaux et les membres de l'association qui parcourent les quartiers et les villages afin d'identifier les enfants frappés par la tragédie migratoire. Et à ce jour, les autorités sénégalaises ne disposent d'aucune donnée précise sur les profils des Sénégalais qui sont morts sur les routes migratoires, hein, parce que c'est l'immigration, la migration irrégulière. Malgré ces obstacles, le secrétariat d'État travaille en partenariat avec un organisme européen pour justement tenter d'identifier les personnes mortes en mer. Et c'est un bel article paru justement dans le Courrier international. Si vous voulez en lire davantage, c'est qui a paru durant la semaine du 19 au 25 février 2026.
Il y a toujours moyen de retrouver ça en faisant des recherches en ligne.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est la source, c'est la maison des reporters qui est à Dakar, Sénégal. C'est une maison qui se consacre exclusivement à l'information.
En fait, il y avait une école de journalisme à Dakar. Je dois raconter que j'ai quand même passé du temps en Afrique de l'Est dans certains moments de ma vie. Et quand tu parlais des femmes tout à l'heure, moi, j'avoue là, qu'au Mali, j'ai vu les femmes, hein, c'était elles qui tenaient l'économie du pays.
Oui.
Et c'est elles qui ont fait tomber le gouvernement à l'époque du dictateur Moussa Traoré, parce qu'elles avaient décidé, on fait la grève, on va plus travailler, et c'est en train de mettre à l'envers l'économie du pays.
C'est intéressant à entendre parce que mon défunt conjoint avait un contrat, il a été 7 ans au Maroc, et puis pour lui, l'économie passait par les femmes.
Oui, oui, bien les femmes, elles sont résilientes, elles ont toute mon admiration. Oui. Et merci beaucoup, Danielle, d'avoir été là ce matin puis de nous parler de ce sujet qui est, à mon avis, très touchant et très important.
Oui.
Merci.
À la semaine prochaine.